Diffusion aujourd'hui de mon entretien réalisé en septembre 2013 avec Michel Nazé, spécialiste de géopolitique et professeur en classe préparatoire au lycée Saint-Michel de Picpus à Paris, à propos de son dernier livre « La Chine et le monde au XXe siècle, les chemins de la puissance » paru aux éditions Ellipse. Un livre qui fait le point sur l'histoire et les transformations politiques et économiques de la Chine, ainsi que sur sa place dans le monde depuis le XXe siècle, enfin depuis le début du XXe siècle. Alors, diffusion aujourd'hui de la première partie. La seconde partie sera lors de la seconde, enfin disons, de la prochaine édition de Bruit de Chine. On écoute Michel Nazé. Michel Nazé, bonjour.
Oui, bonjour Françoise.
Alors, vous avez sous-titré votre livre « La Chine et le monde au XXe siècle, les chemins de la puissance ». La notion de puissance a une histoire qui prend donc naissance en Europe.
Oui, tout à fait. On peut dire peut-être de façon plus générale que la notion de puissance, elle naît avec les empires et que quelque part, c'est vrai qu'elle a été théorisée par les intellectuels européens à partir du XVIe siècle.
C'est Machiavel et Hobbes qui théorisent aussi la puissance de l'État.
Oui, tout à fait. Donc nous sommes dans cette période-là. Donc Machiavel qui s'interroge justement sur l'État et sur le moyen de le réaliser. Quant à Hobbes, nous sommes au début du XVIIe siècle et c'est une réflexion sur la nature de l'État. Oui.
Et le siècle des Lumières continue cette réflexion.
Tout à fait. Hein. Il y a une sorte de fil rouge entre les philosophes de la Renaissance, les Lumières, et voire plus loin, les philosophes allemands du XIXe siècle. Il y a un lien évident entre des gens, par exemple, comme Kant et Hegel.
Mais la Chine aussi a développé sa propre notion de puissance à l'écart de l'Occident.
Oui, tout à fait. Hein. La Chine, c'est un monde en soi et elle a mené une réflexion qui lui est propre sur la puissance et les moyens de la réaliser à une époque qui remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui fait d'ailleurs sans doute la spécificité de ce pays et qui explique sans doute aussi un certain nombre de difficultés que l'on peut avoir aujourd'hui avec la Chine.
Quand on parle de puissance dans son début du XXIe siècle, c'est à propos de la puissance occidentale déclinante et de la puissance chinoise émergente.
Oui, tout à fait. Certains vont jusqu'à parler d'un basculement de puissance, c'est peut-être aller un petit peu vite, mais c'est vrai qu'il y a une réalité, c'est que les Occidentaux qui étaient habitués à avoir quasiment un monopole de la puissance au XXe siècle sont aujourd'hui conduits dans une situation dans laquelle ils vont être amenés à la partager.
Comment expliquer qu'il aura fallu seulement 30 ans à la Chine pour passer de l'état d'un des pays les plus pauvres de la planète à celui de grande puissance économique et géopolitique ?
Alors, c'est vrai que quelqu'un comme Alain Perfit l'avait initialement annoncé, mais c'est quand même une surprise à laquelle d'ailleurs un certain nombre de spécialistes ne se font pas réellement. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Il y a, me semble-t-il, plusieurs raisons qui concourent à cela. La première, qui a été soulignée par quelqu'un comme Pomeranz récemment, c'est le fait que en ce qui concerne la Chine, c'est sans doute plus une réémergence et une renaissance qu'une naissance. Chacun sait que la Chine a été jusqu'au 18e siècle sans doute la première puissance mondiale. Cette puissance s'est trouvée en quelque sorte mise entre parenthèses dans des circonstances que l'on connaît en raison notamment de ses problèmes internes, de la montée de l'impérialisme occidental. Donc c'est sans doute la première raison. La deuxième, me semble-t-il, c'est l'adoption par les communistes chinois d'un modèle économique qui s'est révélé quand même assez extraordinairement efficace.
Alors on ne gouverne pas un grand pays comme un petit et c'est là que la géographie explique pas mal de choses.
Oui, on a un pays qui est un pays continent. La Chine a connu de toute, j'allais dire éternité, des difficultés liées à sa taille. Bon, à l'époque contemporaine, c'est un pays qui a connu des périodes d'anarchie très importantes. Et il est bien certain que le Parti communiste et la forme de pouvoir qui a été mise en place dans ce pays a incontestablement contribué à mettre en place une colonne vertébrale qui a permis de gouverner ce pays. Et c'est aussi aujourd'hui l'un des ressorts sur lequel s'appuie justement le pouvoir en place, qui agite quand même périodiquement la crainte des années 30 et la crainte d'un passé où les Chinois étaient extraordinairement divisés.
Avec 15 voisins que l'on va citer, donc la Birmanie, la Mongolie, la Corée du Nord, le Vietnam, le Népal, le Laos, le Bhoutan, le Pakistan, l'Afghanistan, le Tadjikistan, le Kazakhstan, le Japon et les Philippines, la géopolitique de la Chine n'est pas une mince affaire.
Non, c'est un phénomène, c'est une géopolitique extrêmement complexe. Si on y réfléchit bien, je pense qu'il n'y a qu'un pays qui se trouve dans cette situation-là, c'est la Russie. Et la Russie, si on devait comparer la politique étrangère de ces deux pays et leur géopolitique, autant la géopolitique russe connaît aujourd'hui une situation dans laquelle on assiste à un certain nombre de non-choix, et bien en ce qui concerne les Chinois, ils ont eu l'habilité de régler un certain nombre de problèmes avec leurs voisins. Je pense à ceux du Nord, je pense aux Mongols, je pense notamment aux Russes avec lesquels, depuis une vingtaine d'années, les problèmes ont été réglés, pour ne conserver ouvert qu'un certain nombre de problèmes qui restent pendants. Si on y réfléchit bien, les problèmes géopolitiques de ce pays sont moins importants qu'on ne pourrait le craindre. Pour lui, reste pendant bien sûr les problèmes de la mer de Chine et reste pendant aussi les problèmes de frontières avec l'Inde.
Alors vous citez souvent dans votre livre Samuel Huntington, créateur du concept du choc des civilisations en 1993. Est-ce que vous pensez que son analyse du monde est la bonne ?
Non, oui et non, je vais dire. Je vais dire parce que c'est quelqu'un que. Non, je voudrais d'abord replacer, si vous voulez, le contexte dans lequel cet auteur a accédé à la notoriété. Bon, il l'a fait après la parution d'un ouvrage qui s'intitulait La fin de l'histoire de Fukuyama, qui tendait à montrer que désormais les problèmes géopolitiques étaient réduits à néant dans la mesure où il n'y avait plus qu'un système qui l'emportait. Et quelque part, le mérite d'Huntington dans la foulée de la parution de l'ouvrage de Fukuyama a été de montrer qu'il y avait d'autres ressorts qui pouvaient être source de conflits dans les années qui allaient suivre. Alors, à partir de là, c'est vrai que les thèses d'Huntington sont, surtout dans la façon dont on les résume, sont des thèses qui sont réductrices et qui ne peuvent pas servir de modèle. Malgré tout, il est bien certain qu'il y a quand même un certain nombre de réflexions chez Huntington, de conceptualisation notamment au niveau des valeurs, au niveau également de la civilisation, qui ont leur importance. Et me semble-t-il, d'autant plus dans la mesure où aujourd'hui, un certain nombre d'émergents ou de réémergents, à commencer par la Russie, voire la Chine, se réclament de leur spécificité en expliquant que leur modèle ne peut pas être le modèle occidental dans la mesure où leurs traditions ne sont pas les mêmes. Donc, il faut sans doute manier les thèses d'Huntington avec prudence et surtout éviter qu'elles soient autoréalisatrices, mais il ne faut pas non plus, je pense, les rejeter complètement dans la mesure où elles peuvent alimenter des représentations et surtout incarner un certain nombre de dangers, de difficultés. Quelque part, je pense que une Tington peut servir quelque part, j'allais dire, de sonnette d'alarme pour éviter justement que la géopolitique devienne une géopolitique dans laquelle eh bien, ses valeurs soient antagonistes.
Alors il y a aujourd'hui trois Chines, mais celle qui s'est le plus développée historiquement, c'est celle du littoral.
Oui. Alors, si l'on regarde les évolutions, c'est d'autant plus surprenant que lorsque l'on regarde ce qui s'est passé à l'époque communiste, la Chine communiste n'est pas du tout tournée vers l'extérieur, elle n'est pas du tout tournée vers le littoral, elle est tournée vers elle-même et vers l'intérieur. Et donc, quelque part, on a eu une résurgence de ce qu'il existait à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et donc, à partir de là, on a eu la formation d'un nouveau gradient à partir justement du littoral et avec l'organisation, en effet, de plusieurs Chines, même si le pouvoir en place essaie d'y remédier, et me semble-t-il avec une relative efficacité, même si en effet il existe plusieurs Chines, sans même évoquer Taïwan et sans évoquer la diaspora.
Alors Taïwan, c'est un autre sujet. La Chine a à la fois trop d'eau et pas assez d'eau.
Oui, c'est un constat qui est un constat ancien et qui est d'ailleurs à l'origine des actions volontaristes de Mao, vous vous en souvenez sans doute, qui avait déjà planifié un certain nombre de projets assez pharaoniques en utilisant la main d'œuvre locale, bien sûr évidemment abondante. Je tiens d'ailleurs à signaler que ce sont des projets qui sont encore de réalisation, puisqu'il y a quoi, il y a une quinzaine de jours, il y a déjà eu un début de réalisation avec notamment deux canalisations qui vont permettre d'alimenter le nord avec une partie des eaux du sud, mais cela va se faire dans des conditions, et se fait d'ailleurs dans des conditions difficiles, des conditions environnementales qui posent problème aux populations locales notamment.
Effectivement, le côté environnement laisse un peu à désirer. Et pourtant, elle a le potentiel hydroélectrique le plus important du monde.
Oui, elle a quand même trois grands fleuves. Hein. Mais il y a un problème de répartition. Et puis, il y a aussi un problème de régime des fleuves. Vous vous souvenez que pendant très longtemps, on peut même renvoyer à Tintin et le Lotus Bleu, hein, il y a eu des inondations qui étaient des inondations majeures. Et donc, ce phénomène que vous soulignez tout à l'heure, des périodes où il y a trop d'eau et d'autres où il n'y en a pas assez, des terres où il y a des inondations et d'autres où il n'y a pas assez d'eau, c'est une réalité qui est une réalité déjà ancienne et qui tient à l'organisation du système hydrographique. Une dernière chose, puisque vous évoquez cette question, c'est l'une des raisons pour lesquelles les Chinois tiennent autant au Tibet et à cette région qui est une sorte de réservoir d'eau sur toute une partie de l'Asie du Sud. Et donc, on peut expliquer l'intérêt des Chinois pour cette région, pour des raisons stratégiques, parce que cela permet de relier la Chine littorale à la Chine des confins, mais cette question de l'hydrographie me semble fondamentale en effet.
Puis avec le Tibet, il y a aussi peut-être la frontière avec l'Inde. Alors comment on pourrait définir l'État chinois d'aujourd'hui ?
Ah, comment peut-on définir l'État chinois ? Bon, je pense qu'on peut le définir par la forme de gouvernance qui est la sienne aujourd'hui. Et là, on se heurte à une difficulté qui fait problème aux Chinois eux-mêmes, puisque je pense à un ouvrage, qui est dû à un auteur de romans policiers chinois qui a intitulé l'ouvrage français s'appelle Cyber China. Vous le connaissez. Et le titre anglais, c'est l'énigme chinoise. Et donc, pour ce Chinois qui a vécu, qui est né en Chine, la forme de gouvernement qu'il existe aujourd'hui dans ce pays est une énigme. Est une énigme. Pourquoi ? Parce que c'est un régime qui est indiscutablement qui est communisme, qui se veut marxiste-léninisme-maoïste, et puis qui, bien sûr, hein, a ouvert les portes à l'argent et au capital, ce qui fait que bien tout est un petit peu mêlé, tout est un petit peu mélangé, et on a quelque chose d'un peu monstrueux, il faut le reconnaître, ce qui inquiète. Alors bon, la question qui se pose, c'est de savoir si cette forme de gouvernement va perdurer ou si elle va évoluer. Sinon, pour répondre de façon, j'allais dire, succincte à votre question, vous savez que pour qualifier le gouvernement chinois, on a parlé de post-totalitarisme, on a parlé de totalitarisme replié, et donc on invente des concepts avec une réalité qui, me semble-t-il, est la suivante. On est face à un système qui est devenu finalement très, très opaque, hein, dans lequel on a beaucoup de difficultés à lire ce qui s'y passe, y compris d'ailleurs les sinologues, y compris les spécialistes qui vivent en Chine, les spécialistes français. Il y a d'excellents spécialistes français qui sont installés en Chine, et ils ont beaucoup de difficultés pour essayer de lire le régime et d'essayer d'apercevoir les évolutions à travers les déclarations des uns et des autres qui sont loin d'être transparentes.
Moi, j'aime bien le terme de capitalisme rouge. Alors, quelles sont les principales composantes de l'identité chinoise, sachant que la Chine est une mosaïque de microcultures ?
Ah, une question là aussi extrêmement complexe. Dans la mesure où l'identité chinoise est composée, en effet, de strates extrêmement composites. Vous venez de le dire, des microcultures évidentes. Une seconde strate qui concerne les représentations que les Chinois, notamment les Han, se font d'eux-mêmes, conception historique. Et puis, à partir de là, et notamment les strates qui se sont édifiées à l'époque contemporaine, et qui concernent les influences occidentales, et qui concernent aussi l'identité, il ne faut pas le nier, qui a été influencée et mise en place par les communistes chinois, même si c'était que pendant quelques décennies. Mais j'insisterai là-dessus, il y a eu, semble-t-il, une acculturation assez profonde de la Chine, qui a été effectuée par les communistes dans les années 50, à travers un certain nombre de lois qu'ils ont votées immédiatement, la loi sur la famille notamment, la réforme du système éducatif en particulier, et la mise en place d'un système qui a contribué quand même à former, à formater les esprits. On ne comprend pas très bien l'influence et l'aura que quelqu'un comme Mao a pu avoir dans ce pays.
Mais finalement, que signifie aujourd'hui être chinois pour un jeune chinois ? Comment il se définit ?
Ah. Comment se définit un jeune chinois ? Alors, je pense que les définitions me semble devoir être multiple, c'est-à-dire que suivant les régions, suivant le milieu social auquel ils appartiennent, suivant aussi les regards qu'ils peuvent avoir, soit tournés vers l'extérieur, soit vers l'intérieur du pays, ça me semble être une réalité qui est extrêmement difficile à cerner et qui rajoute, me semble-t-il, à l'énigme chinoise que nous avons évoquée tout à l'heure, dans la mesure où on a quand même beaucoup d'interrogations sur ce que va devenir ce grand pays dans les années qui viennent.
Nous écoutions Michel Nazet à propos de son dernier livre « La Chine et le monde au XXe siècle, les chemins de la puissance » paru aux éditions Ellipse.